Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Sociologie de Paris est un essai bref de sociologie urbaine, publié dans la collection Repères de la Découverte et signé par Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. L'ouvrage propose de lire Paris non comme un simple décor patrimonial ou une capitale abstraite, mais comme un espace social où se rencontrent, se séparent et se hiérarchisent des populations aux ressources très inégales. Les auteurs s'appuient sur leur connaissance des classes dominantes et des transformations de l'espace parisien pour éclairer la concentration des richesses, du pouvoir et des positions prestigieuses. Leur propos ne réduit toutefois pas la capitale à ses quartiers aisés, il insiste aussi sur la diversité de son peuplement, sur sa dimension cosmopolite et sur les tensions qui menacent cette pluralité. Le livre a ainsi une double finalité: donner des repères pour comprendre l'organisation sociale de Paris et interroger les conséquences politiques et symboliques de son embourgeoisement. Il s'adresse autant aux étudiants qu'aux lecteurs souhaitant dépasser les représentations touristiques ou administratives de la ville. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, Paris comme espace social plutôt que comme simple territoire administratif. Le point de départ du livre consiste à considérer Paris comme une réalité sociale produite par des rapports de position, de ressources et de pouvoir. Une ville ne se résume pas à ses arrondissements, à ses monuments ou à ses limites institutionnelles, sa géographie exprime également des écarts de revenus, de patrimoine, de capital scolaire, de relations et de prestige. Cette perspective aide à comprendre pourquoi l'adresse résidentielle n'est jamais tout à fait neutre. Habiter certains secteurs facilite l'accès à des équipements, à des réseaux, à des établissements réputés et à une image sociale valorisée, tandis que d'autres localisations peuvent concentrer des contraintes ou être associées à une moindre reconnaissance. Paris apparaît donc comme une structure où les inégalités prennent une forme visible et quotidienne. Les auteurs invitent à lire les quartiers, les usages de l'espace et les déplacements comme des indices de rapports sociaux plus larges. Cette démarche évite deux simplifications: imaginer une capitale uniformément privilégiée ou, à l'inverse, opposer mécaniquement un centre riche à des périphéries pauvres. Elle met l'accent sur les différenciations internes et sur les mécanismes par lesquels l'espace urbain contribue à stabiliser les distances entre groupes. Le livre fournit ainsi une grille d'analyse applicable au débat sur le logement, l'école, les transports et l'accès aux services collectifs. Deuxièmement, la concentration des richesses et du pouvoir dans la capitale. Sociologie de Paris examine la place particulière de la capitale dans la concentration française des ressources économiques, politiques et culturelles. Paris réunit de nombreuses institutions de décision, des emplois fortement qualifiés, des sièges d'organisation, des lieux de prestige et des marchés immobiliers particulièrement valorisés. Cette accumulation ne produit pas seulement une forte attractivité, elle renforce la compétition pour l'accès aux logements et aux positions urbaines les plus recherchées. Les auteurs soulignent que l'embourgeoisement de Paris pose une question sociale centrale. Si la résidence dans la capitale devient progressivement inaccessible à des ménages aux revenus ordinaires, l'inégalité matérielle est aussi redoublée sur le plan symbolique. Vivre à Paris peut alors fonctionner comme un signe de statut, tandis que l'éloignement est interprété à tort comme un simple choix individuel plutôt que comme l'effet de contrainte économique. L'analyse relie donc le marché du logement à des rapports de domination plus larges. Elle permet de voir que les prix, les aménités urbaines et la réputation des quartiers ne sont pas des données isolées. Ils participent ensemble à la sélection des habitants. Le livre ne présente pas cette évolution comme une fatalité technique, mais comme un processus à interroger au regard du droit effectif à la ville et du maintien d'une population sociale diverse. Troisièmement, la diversité du peuplement comme richesse urbaine menacée, l'ouvrage accorde une place importante à la diversité sociale et culturelle du peuplement parisien. Paris demeure un lieu où des origines, des trajectoires migratoires, des métiers, des générations et des modes de vie différents se côtoient. Cette pluralité fait partie de la vitalité de la capitale, elle nourrit les activités économiques, les pratiques culturelles, les sociabilités de quartier et la capacité de la ville à représenter une société multiple. Mais les auteurs la décrivent comme fragile lorsque la hausse des coûts résidentiels, la valorisation sélective de certains secteurs et la concentration des ressources écartent progressivement les catégories populaires et une partie des classes moyennes. La diversité ne disparaît pas seulement des statistiques. Ce sont aussi des usages, des solidarités, des commerces et des formes de présence quotidienne qui risquent d'être déplacées. Le raisonnement est important car il distingue la diversité affichée de la diversité réellement habitée. Une ville peut célébrer son cosmopolitisme tout en réduisant les possibilités concrètes pour des groupes variés d'y vivre durablement. Sociologie de Paris invite ainsi à examiner les conditions matérielles de la coexistence et non uniquement les discours qui la valorisent. Cette approche relie la question urbaine à un enjeu démocratique. Une capitale socialement ouverte permet davantage de rencontres entre mondes sociaux, alors qu'une ville très sélective tend à organiser leur séparation. Quatrièmement, les beaux quartiers et les mécanismes de l'entre-soi des élites. Le livre bénéficie de l'expérience de recherche des auteurs sur la haute bourgeoisie et les espaces privilégiés de l'Ouest parisien. Cette expertise éclaire l'importance de l'entre-soi dans la reproduction des positions dominantes. Les groupes les plus favorisés ne disposent pas seulement de ressources financières élevées. Ils peuvent aussi entretenir des réseaux de relations, des habitudes communes, des institutions de sociabilité et une proximité résidentielle qui facilite la transmission du patrimoine et du statut. Les beaux quartiers doivent donc être compris comme davantage que des zones de confort ou de luxe. Ils constituent des environnements où les ressources se cumulent et se renforcent mutuellement. La proximité entre familles dotées de capitaux comparables peut favoriser l'accès à l'information, à des cercles relationnels et à des lieux socialement sélectifs. L'analyse évite de ramener ce phénomène à une préférence privée sans conséquences collectives, lorsque les élites peuvent se regrouper dans des espaces protégés et prestigieux. Cette concentration pèse sur la distribution des opportunités et sur les représentations de la légitimité sociale. En rendant visibles des groupes souvent peu accessibles à l'enquête, les auteurs déplacent le regard sociologique. Ils rappellent que l'étude des inégalités ne doit pas porter uniquement sur les populations défavorisées, mais aussi sur les conditions qui permettent aux positions les plus avantageuses de se maintenir et de se transmettre. En dernier lieu, une méthode de lecture des inégalités inscrite dans l'espace parisien. La contribution principale de Sociologie de Paris et de fournir des repères pour articuler l'observation de la ville et l'analyse des rapports sociaux. Le lecteur est invité à ne pas isoler les phénomènes urbains, la localisation des logements, la réputation des quartiers, la concentration des équipements. Les modalités de déplacement et les pratiques de consommation peuvent être reliées à des inégalités de ressources et de pouvoir. Cette méthode est particulièrement utile parce qu'elle rend lisibles des mécanismes souvent perçus comme naturels. Par exemple, l'attrait d'un secteur ne provient pas seulement de qualités intrinsèques, il peut résulter d'investissements publics, d'une histoire sociale, d'une valorisation immobilière et de la présence de groupes déjà favorisés. Inversement, la mise à distance de certaines populations n'est pas forcément le produit d'une exclusion explicite. Elle peut découler de l'accumulation de barrières économiques et symboliques. Le format synthétique de l'ouvrage conduit à privilégier une vue d'ensemble plutôt qu'une monographie exhaustive de chaque quartier. C'est une limite assumée, mais aussi un avantage pédagogique. Le livre donne un vocabulaire et des questions pour interpréter les transformations de Paris sans les réduire aux seules préférences résidentielles. Il aide ainsi à replacer les débats contemporains sur la gentrification, la mixité et la centralité dans une réflexion plus large sur la fabrication sociale de l'espace urbain. En conclusion, Sociologie de Paris s'adresse en premier lieu aux étudiants en sociologie, géographie, urbanisme et sciences politiques. Mais son intérêt dépasse largement le cadre universitaire. Les habitants de la région parisienne, les professionnels du logement, les acteurs associatifs et les lecteurs attentifs aux inégalités y trouveront une manière structurée d'interpréter des réalités familières prix immobilier. Réputation des quartiers, concentration des emplois, ségrégation résidentielle et accès différencié aux ressources de la capitale. Son bénéfice intellectuel tient à son changement de focale. Au lieu de traiter Paris comme une ville exceptionnelle uniquement par son patrimoine, son rayonnement ou son administration, le livre montre comment cette exception est aussi construite par des rapports sociaux et par une distribution inégale des avantages urbains. Il permet de relier les expériences individuelles du logement et des déplacements à des mécanismes collectifs de sélection et de reproduction sociale. Par rapport à un guide urbain, à un récit historique ou à une description statistique de la métropole, l'ouvrage se distingue par la place qu'il accorde aux classes sociales, à la concentration des pouvoirs et à l'entre-soi des groupes favorisés. Sa brièveté impose une synthèse, mais rend l'analyse directement accessible. La force du livre réside enfin dans son refus d'opposer la richesse culturelle de Paris à la critique de ses inégalités. Il montre que la préservation d'une capitale vivante et diverse dépend précisément de la capacité à ne pas réserver son espace aux seuls ménages les plus fortunés. Si vous souhaitez soutenir Michel Pinson, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.